Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de région, votre magazine sur l'actualité de la région Languedoc-Roussillon. Coproduit par les radios associatives de la région, cette semaine c'est la radio FM+ qui joue les rédacteurs chefs. Alors au sommaire de cette édition, le pape Benoît XVI qui démissionne, première depuis bien des siècles. Nous verrons la réaction de l'archevêque Monseigneur Pierre-Marie Carré. Nous ferons ensuite un petit tour vers Port-Camargue où la ville a décidé d'utiliser un nouveau véhicule utilitaire. Plus écologique, il est en accord avec le label Port Propre. Ensuite, dans l'Hérault, l'Assa du canal de Gignac mène un important programme de modernisation de ses réseaux d'irrigation en ce début d'année. Et puis, pour finir cette édition, Monsieur le Préfet nous parle de la mortalité sur les routes et des changements qui vont être entrepris. C'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti lundi dans le monde entier peu avant midi. Le pape Benoît XVI a annoncé sa démission à partir du 28 février prochain dans un discours prononcé en latin d'un consistoire au Vatican. Cédric Combet a recueilli à chaud, aussitôt l'annonce faite, les propos de l'archevêque métropolitain de Montpellier, Monseigneur Pierre-Marie Carré.
Mais la toute première réaction, c'est la surprise. C'est extrêmement rare dans l'histoire de l'Église. Une démission volontaire, c'est la deuxième fois. Et donc, la première fois remonte au Moyen-Âge. Jusqu'à présent, les papes mouraient, on pourrait dire, au poste. Et ici, Benoît XVI le fait remarquer, c'est la fatigue, c'est le poids de la charge. Évidemment, la charge de pape aujourd'hui est beaucoup plus lourde et compliquée qu'au siècle dernier. Il faut bien l'entendre. Donc, surprise et en même temps aussi, compréhension. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des rencontres avec le pape et la fatigue physique était évidente. Et là, c'est vrai, évidente. La peine à marcher, on le voyait tassé. Enfin, on voyait vraiment le corps de la peine à suivre. Par contre, l'intelligence était intacte, vive. Il improvisait, et bien sûr, il me reconnut. On a reparlé du synode à la fin du mois de novembre. Je ne m'inquiétais pas du tout pour cela. Et j'ai même vu sur Internet, il y a encore deux ou trois jours, qu'il avait fait pendant une demi-heure, sans notes, une présentation d'un texte biblique aux séminaristes de Rome, et vraiment presque éblouissante. Donc l'intelligence est bonne. Mais il ne suffit pas de l'intelligence, il faut aussi assurer des présences, les cérémonies liturgiques sont très longues et lourdes, et tant de tâches qui pèsent sur un homme de plus de 85 ans. Il ne faut pas l'oublier.
Justement, pendant sa lettre, ses déclarations que je vais relire, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'évangile, il faut la vigueur et le corps ainsi que l'esprit qui soient nécessaires. Vous êtes d'accord avec ces mots du pape?
Ah oui, tout à fait d'accord. L'esprit est là, mais de fait, la vigueur du corps n'est plus là. Et je m'imagine que Benoît XVI, ayant vu de près Jean-Paul II à la fin de sa vie, a dû en tirer des conclusions pour lui. Il est vrai que Jean-Paul II était atteint de maladies graves et on pouvait deviner que sa fin, ça allait s'approcher. Benoît XVI, il ne semble pas qu'il y ait de maladies graves, c'est plutôt le corps qui se fatigue peu à peu et de fait, il peut vivre encore des années. On pourrait dire en diminuant progressivement de rythme et ce serait vraiment dommage pour l'Église. Je crois que c'est cela qu'il a voulu peser devant Dieu. D'abord, il le dit, il a prié, il a pris aussi la mesure de la gravité de cet acte et puis il remet, donc il dit « je démissionne ». Le pape n'a pas à remettre sa démission à quelqu'un, on remet sa démission à son supérieur. Donc il dit « je démissionne » et les cardinaux vont entreprendre la procédure requise pour l'élection d'un prochain pape.
Que va-t-il se passer donc maintenant, Monseigneur Pierre-Marie Carré? Sa démission est officialisée le 28 février.
Voilà, 28 février à 20h, d'ici là le pape reste pape et les activités se poursuivent. Mais donc à partir de ce moment-là, on pourrait dire les vacances du siège, comme on l'a dit, c'est-à-dire que le pape va déménager, ne me demandez pas où il va, je n'en sais pas plus qu'à chacun, c'est-à-dire rien. Non, on va déménager, et puis les cardinaux vont se réunir, faire ce qui se passait jusqu'à présent à la mort d'un pape, c'est-à-dire prendre plusieurs jours de concertation entre eux, de réflexion sur la situation de l'Église, apprendre à se connaître aussi, parce qu'ils ne se connaissent pas tous forcément très bien. Donc apprendre à se connaître et puis commencer un conclave, mais je pense que les dates seront communiquées de façon à ce que l'élection puisse avoir lieu avant Pâques.
Le prochain conclave se réunira à Rome entre le 15 et le 20 mars et le prochain pape devrait être élu pour Pâques.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Au Gros du Roi, Port-Camargue a accueilli la semaine dernière un nouveau véhicule utilitaire. Cela s'inscrit dans leur démarche de protéger la nature dans le cadre de leur labellisation « site sport propre ». Ils développent des projets soucieux de l'environnement pour être à la pointe. Naïma Servès de Delta FM a rencontré Bernard Suzarini, chargé de la promotion et de la communication de Port-Camargue.
Port-Camargue, situé au Gros du Roi, est le premier port de plaisance d'Europe. Aménagé dans les années 60, ce port s'engage depuis toujours dans l'environnement. Protéger la nature et la cité maritime, ils le font depuis des années. Bernard Suzarini, en charge de la promotion et de la communication de Port-Camargue, vous l'explique.
Port-Camargue, c'est un port qui a maintenant un peu plus de 40 ans, qui est né en même temps que la mission Racine. C'est un très grand port. L'architecte qui est Balladur, lorsqu'il a conçu ce port, l'a partagé en deux, en quelque sorte, puisqu'on a une partie dite publique et une autre partie qui est privative avec les marinas. Ça représente globalement un peu plus de 5000 postes à quai. C'est énorme. Et surtout, il y a 86 hectares de plans d'eau.
C'est un port qui a été conçu pour l'environnement.
Il faut remonter un petit peu à l'origine, à la création de Port-Camargue, parce que le port est bien né en matière d'environnement. C'est-à-dire que l'architecte Balladur, il s'est aperçu qu'il y avait déjà une marina qui existait sur la Méditerranée, qui était Port Grimaud, et que les bassins avaient été découpés sans être liés entre eux. Donc l'eau ne circulait pas et c'est pas très très simple. Et donc il a réfléchi et il s'est dit, si je fais la même chose ici avec 86 hectares de plans d'eau, c'est énorme, on va avoir des gros problèmes de pollution. Et donc il a busé avec des bus de 1,50 m, c'est des gros tuyaux qui sont sous les marinas lorsqu'on les a construites et qui permettent de les relier entre elles. C'est un véritable gruyère. Il a été obligé de faire une jonction, comme on construisait Port-Camargue, on remblayait sur des vases à l'époque. Il a été obligé de relier la partie des zones humides sur l'arrière-pays à la mer. On ne pouvait pas faire boucher cet accès. Et il y a donc un chenal sud qui a deux missions. La première, c'est de protéger de l'ensablement, continuer à la mission première, puisque ça, la baie s'enfermait, s'ensablait, hein, la baie d'Aigues-Mortes devant le Gros du Roi, donc c'est d'empêcher cet ensablement. On n'a fait que déplacer le problème, on ne l'a pas réglé. Et surtout de permettre aussi une autre circulation d'eau, parce que des bus permettent de relier ce chenal sud, ce qui fait que l'eau dans Port-Camargue, comme on a des variations en permanente entre le Mistral et le vent d'Est, on a des variations de plus ou moins 80 cm, ça fait 1,60 m. Donc on a de l'eau qui circule en permanence et des eaux de grande qualité.
Vous avez été labellisé port propre ?
On a été effectivement port pilote de l'opération port propre. On a été les premiers à ouvrir ce qu'on appelle une déchetterie qui permet de collecter des produits très toxiques, des produits qu'on utilise, des solvants très particuliers dans la conception des plastiques, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 220 tonnes de produits collectés sur cette déchetterie, qui est ouvert aux entreprises et bien entendu aux plaisanciers. Il faut savoir que là-dedans, il y a 22 tonnes de batteries, par exemple. On a 3,5 tonnes de fusées. On a des produits, une vingtaine de tonnes de produits très toxiques, pour vous donner une idée. Donc avant, ça partait où ? Dans la nature, très souvent. Bien que maintenant, on n'a plus de décharges publiques à ciel ouvert. Donc ça a été un des premiers grands progrès. Et puis après, on a toujours été en matière d'environnement pour un port de plaisance à la pointe de cet environnement, dans la mesure où on s'est dit maintenant il faut qu'on aille un peu plus loin. Et après les labels, il y a une norme qui existait, qui était la norme ISO 14001, qui est beaucoup plus contraignante, parce que là c'est pas un label, donc il faut vraiment se battre chaque année, parce qu'elle est acquise que pour un an, et chaque année il faut toujours aller de l'avant. Donc à cette époque là on a commencé à démonter nos transformateurs au pyralène, on a commencé à réfléchir comment plus rien ne pouvait retourner dans le port, c'est-à-dire que tout ce qui est sur les zones techniques, il a fallu, il y a 4,5 hectares, il a fallu récupérer toutes les eaux de carénage, qui étaient des eaux très toxiques, avec des produits, des PCB qui sont utilisés, du plomb, du cuivre, du zinc, dans les peintures, sur la coque des bateaux, pour que ça puisse repartir en station d'épuration. D'abord un débourbeur, où c'est filtré, et après la station d'épuration, qui est maintenant dans une autre génération, bien entendu, puisque la première avait été construite en 69. Et après, on a fait aussi l'ensemble des parkings qui sont autour du port, hein, tout ce qui était en périphérique, les entreprises. On a fait aussi les piscines, que l'on a regardé si elles ne partaient pas dans le port. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, ce travail a été payant, puisqu'on n'a plus rien qui repart dans le port, si ce n'est les bateaux. Alors là, les bateaux, ça a été une autre mission. Ça a été aussi de les sensibiliser pour dire aux gens, écoutez, il faut maintenant, quand vous lavez le pont, quand vous lavez la vaisselle, etc., d'abord, ils ont des tanks à eau noire et à eau grise, comme sur les camping-cars, mais il vous faut utiliser des produits bio, parce que, vous voyez, ça va dans le port, et là, vous allez vous baigner, c'est pas tout à fait sain si vous utilisez des produits trop toxiques. Et les gens, ils y sont sensibles, plus que chez eux. C'est marrant, parce que maintenant, c'est quelque chose qui va de soi, et on a en plus une clientèle de l'Europe du Nord qui, eux, sont encore plus sensibles, puisqu'ils ont des bateaux équipés de caisses à eau noire et à eau grise, hein, comme camping-car, et dès qu'ils arrivent, ils cherchent effectivement où sont les pompes de collecte. Vous voyez, donc de plus en plus, ce geste citoyen prend naissance dans le port, et c'est un combat permanent que l'on mène.
Dans le cadre de la labellisation du site Port Propre en Languedoc-Roussillon, vous avez mis à disposition un véhicule utilitaire et électrique de plus. Comment ça s'est passé ?
Ça vient chapeauter effectivement cet ensemble d'engagement vers un environnement respectueux. C'est très très important parce que les voitures électriques, il y en a deux qui servent à travailler en permanence sur le port. La troisième, celle-là, nous permet aussi de tourner sur le port. C'est une de ses premières missions. Mais son autonomie est un peu plus. C'est-à-dire qu'elle nous permet de faire au moins 150 km dans un rayon proche des villes comme Montpellier, Nîmes, etc. Ça nous permet de faire un aller-retour. Il n'y a aucun problème. On est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. Le personnel utilise ce type de véhicule, que ce soit pour faire de l'entretien, du nettoyage, ça c'est des véhicules qui sont avec un plateau derrière, hein, des véhicules électriques, ça c'est un véhicule normal, clientèle, hein, une voiture qui roule sur la route, on ne s'aperçoit pas qu'elle est électrique, hein, d'ailleurs, donc celle-là a une mission, ça le permet d'aller un peu plus loin que le port, mais tout le monde apprécie et les gens sont gagnants.
Vous allez développer d'autres démarches en matière d'environnement pour le port ?
On est obligé de développer d'autres démarches parce que la norme ISO 14001 nous engage à toujours faire mieux. Donc là, on est toujours en quête de trouver des nouvelles solutions, d'adapter, parce que c'est un combat permanent. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le port et les plages de notre commune sont sous un label qui est le pavillon bleu de France. En 2014, les normes vont être encore beaucoup plus contraignantes pour ce label. Donc nous, on s'y prépare, effectivement, la commune s'y prépare, mais c'est un combat.
Carnet de région.
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'ASSA, association syndicale autorisée du canal de Gignac, qui comptait près de 4000 propriétaires adhérents en 2012, mène un important programme de modernisation de ses réseaux en ce début d'année. Le canal de Gignac a pour vocation, depuis le fleuve Hérault, d'alimenter en eau brute des parcelles situées sur 12 communes de la vallée de l'Hérault. Au total, il irrigue près de 3500 hectares, ce que nous explique Céline Hugaudot, la directrice de l'association syndicale autorisée, qui gère la structure au micro d'Alain Mendez de Radio Lodev.
Le début du périmètre irrigué à l'amont, c'est au niveau du pont du Diable. Et le canal se divise en deux branches de part et d'autre de l'Hérault. Il va jusqu'à Serras en rive droite et jusqu'à Tressan en rive gauche. On a donc deux branches qui assurent le transport. Il y en a une qui fait 15 km en rive droite et l'autre 27 km en rive gauche. Et à partir de ce canal de transport, on va avoir des filioles de distribution qui sont historiquement des rigoles gravitaires, hein, des petits canalets en béton dans lesquels l'eau coule à surface libre. Et c'est ces rigoles-là qui vont amener l'eau depuis le canal de transport jusqu'à la parcelle. Puis ensuite, à la parcelle, l'agriculteur ou l'usager, enfin l'irrigant, va utiliser l'eau traditionnellement en faisant de l'irrigation à l'arrêt, c'est-à-dire en apportant l'eau dans la parcelle pour pouvoir arroser les cultures. Et progressivement, le canal de Gignac donc se modernise et convertit ses rigoles gravitaires en tuyaux souterrains, comme ce qu'on a sur de l'eau potable. À ce moment-là, ben, on ne voit plus couler l'eau dans les rigoles, mais l'eau arrive avec un peu plus de pression à la parcelle et va permettre à l'usager de pouvoir mettre en place des systèmes d'irrigation différents qui soient plus faciles à utiliser, plus confortables et plus économes en eau. Donc on va pouvoir mettre du goutte à goutte, on va pouvoir mettre des systèmes d'irrigation localisés.
Et c'est l'objectif d'une première tranche de travaux de modernisation qui viennent de débuter avec la pose de 33 000 m² de réseau linéaire sur 400 hectares.
C'est l'effet contrat de canal donc, qui a été signé en décembre 2011. Avec le contrat de canal, on peut engager un programme un peu plus ambitieux et moderniser de façon plus conséquente, plus rationnelle, je dirais, nos réseaux. Notre programme, là, le programme qui est en cours, c'est 400 hectares d'un seul coup qui sont modernisés, là où on avait à peu près modernisé entre 500 et 600 hectares sur les 10 dernières années. Donc on a le secteur situé donc entre Agnan et Gignac, sur ce qu'on appelle les Camaras. On a tout le secteur de Gignac où on va finalement annuler tous les réseaux gravitaires qui coulaient encore en centre-ville. On a le secteur de Paupian, on a le secteur de Bages sur Pouzol, on a le secteur de Tressan sur Saint-Jean-de-Fosse, tout le secteur situé entre la chapelle Saint-Géniès et le domaine de Pierrefonds. Et enfin, canal rive droite, au niveau de Serras, tout ce qui est sous la chapelle d'Ortus. Alors c'est une tranche de travaux qui est très très rapide puisqu'on a signé l'ordre de service début décembre. Et les travaux sont prévus pour être terminés le 22 avril. Donc tous les secteurs concernés devraient avoir une desserte modernisée pour la campagne d'irrigation 2013.
Ces travaux sont menés dans le cadre d'un contrat de canal signé fin 2011 avec l'État, l'Agence de l'eau, la région Languedoc-Roussillon, le département de l'Hérault, les collectivités et associations locales. Ce contrat d'une durée de 5 ans prévoit un programme d'action chiffré à 13 millions d'euros et financé à hauteur de 80%.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
101 tués sur les routes de l'Hérault l'an dernier. Un chiffre qui résonne durement à l'oreille et que la préfecture compte bien réduire cette année. Une baisse déjà perceptible, 5 morts en janvier, c'était le double l'an dernier. Pierre de Bousquet, préfet de l'Hérault, nous présente le plan d'action pour 2013 au micro de Mode de Bourquenay.
Je ne vois pas d'autre explication à cette surmortalité routière. On observe dans le département une baisse continue ces dernières années du nombre d'accidents et une baisse aussi du nombre de blessés. En revanche, on n'arrive pas à baisser le nombre de morts, on a même encore monté l'année dernière. Et donc on a moins d'accidents, mais ils sont de plus en plus graves. 43% de ces accidents ont un lien avec la consommation d'alcool ou de drogue, et la plupart des autres correspondent à, non pas de chance, mais le non-respect des règles du code de la route. C'est donc des problèmes de comportement, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. En pédagogie, en communication, mais aussi en sanctions. Je n'hésite pas à le dire. Il faut manier les deux. Et nous nous sommes accordés avec les forces de police et de gendarmerie, mais également les parquets de Montpellier et de Béziers pour mener cette politique rigoureuse. La jeunesse n'est pas par nature plus irresponsable. Les jeunes ont moins peur de la mort, ils se croient souvent insubmersibles et incassables, et puis ils peuvent avoir des conduites à risque davantage. Donc il faut arriver à leur faire prendre conscience de ça et leur les convaincre que c'est inutile de tester leurs limites. Ils se mettent en danger, ils mettent en danger leurs proches parce que bien souvent dans les accidents mortels, c'est le passager qui trinque à moto ou en voiture, et que le passager c'est un copain, le passager c'est un proche, c'est quelqu'un de la famille, et ça ne se répare pas.
Et voilà, Carnet de Région, c'est terminé. Ce magazine vous a été proposé par les radios associatives du Languedoc-Roussillon. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.